Sur Radio Ndekeluka, il est 13h et c'est l'heure de suivre le journal avec Inès Langopo. Inès, bonjour.
Bonjour Ursula, bienvenue à tous dans cette édition à la une. Henri-Marie Dondra, chef du gouvernement, aurait adressé une lettre de démission, mais difficile pour le moment de donner plus de précisions. Le 35e sommet de l'Union africaine s'ouvre ce matin à Addis Abeba en Éthiopie. Les séries de coups d'État récemment observées sur le continent font partie des points phares de cette rencontre. Et puis Médecins Sans Frontières suspend ses activités à Cabo dans l'Ouam. L'insécurité et la fermeture de l'aérodrome de la ville seraient les principales raisons de cette suspension d'activité. Football, Coupe d'Afrique des Nations, le match de la 3e place, c'est ce soir entre le Cameroun et le Burkina Faso à 20h au stade de Yaoundé. Je vous présente ce journal en compagnie de Claire Assambadinga. Bonjour Claire.
Bonjour Inès Langopo, bonjour à tous. La nouvelle circule mais pas encore de confirmation. Le Premier ministre centrafricain Henri-Marie Dondra aurait déposé sa lettre de démission.
L'information est aussi diffusée par les médias internationaux Africa Intelligence et RFI. Africa Intelligence écrit au titre de son article que le Premier ministre est pris en tenaille entre Wagner et les bailleurs. Mais sur le plan local, l'entourage du Premier ministre parle de rumeurs. Henri-Marie Dondra lui-même n'a pas officiellement communiqué sur cette affaire. Selon Africa Intelligence, le président de la République n'a pas encore répondu à cette lettre de démission. Il le ferait peut-être à son retour d'Addis Abeba, là où il prend part au 35e sommet de l'Union africaine.
Et parlons de ce 35e sommet de l'Union africaine qui s'ouvre aujourd'hui à Addis Abeba en Éthiopie. Il y a plusieurs points à l'ordre du jour.
Oui, Claire, des coups d'État récemment observés sur le continent, le Covid-19 et le statut controversé d'Israël comme observateur de l'Union africaine sont entre autres les questions à l'ordre du jour de ce sommet. La gestion des crises politiques sera également au cœur des discussions. Depuis le dernier sommet, pas moins de 4 pays ont été suspendus de l'Union africaine. La Guinée, le Mali, le Burkina Faso et le Soudan. Le Tchad, en revanche, a été épargné et combien même un conseil militaire dirigé par le fils de l'ex-président Déby gouverne le pays depuis son décès.
Et puis au Mali, une manifestation a eu lieu hier à Bamako pour demander le retrait de la force Barkhane.
Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées hier soir dans la capitale pour demander le départ des troupes françaises. Installées depuis 2014 dans le pays, cette opération militaire menée par l'armée française avec ses alliés au Sahel et au Sahara vise à lutter contre les groupes djihadistes dans la région. Les manifestants demandent que le Mali exerce entièrement sa souveraineté nationale.
Inès, la fermeture des services de Médecins Sans Frontières à Cabo dans l'Ouam fin janvier impacte déjà la santé de la population locale.
Selon les autorités de Cabo, au moins 9 femmes enceintes ont déjà trouvé la mort lors des difficultés liées aux évacuations sanitaires. Le retrait de MSF à Cabo plonge non seulement les jeunes dans le chômage, mais aussi toute la région dans une crise sanitaire. Médecins Sans Frontières n'a pas encore commenté cette information. Les autorités locales appellent à l'aide. Un papier de Igor Tiskin-Senapay rendu par Armando Yangindi.
C'est exactement le 29 janvier que les services MSF ont fermé leurs portes à Cabo. Les difficultés d'approvisionnement en produits pharmaceutiques avec la fermeture de l'aérodrome de Cabo a entraîné cette décision. Chantal Merveille Touman, députée de Cabo, dresse le bilan à l'intervalle de 5 jours d'inactivité.
Si aujourd'hui MSF suspend brusquement ses activités, les conséquences sont déjà là. Ils ont quitté le 29 janvier. Nous sommes aujourd'hui le 5 février. Nous avons déjà perdu 9 femmes enceintes pendant leur évacuation à Batangafu. C'est ce que nous avons vécu après la fermeture de MSF. La population est en détresse car ne possédant pas de moyens nécessaires pour se procurer des produits pharmaceutiques, ni d'aller à Bangui, Bandoro, Bosangwa ou à Buka. C'est seulement cet hôpital de Cabo qui nous soutient jusqu'à Sido.
Si la situation sanitaire est gravement affectée par cette suspension temporaire des activités de MSF, les jeunes de Cabo déplorent leur retour au chômage. Abdel Akis Mahamat, maire de Cabo.
Vraiment, il y a beaucoup de chômage. Plus de 100 et quelques personnes qui sont recrutées, c'est des jeunes de Cabo. Donc, c'est ça qui est vraiment, si MSF quitte seulement aujourd'hui, là, vraiment, c'est un choc pour les populations de Cabo. Vraiment, je lance un appel à l'endroit de notre président de la République et notre gouvernement pour regarder ça et puis alléger les sanctions là pour l'aérodrome. Parce qu'ici, déjà, il y a le Force armée nationale, FACA, ils sont là. Il y a la gendarmerie nationale, à l'île rouge, ils sont là. Donc, ils été sécurisé l'aérodrome.
Même si MSF n'a pas encore réagi officiellement à cette situation, nos informations laissent croire que la fermeture de l'aérodrome de Kabou, mais aussi les multiples cas de braquage dont sont victimes le personnel MSF sur l'axe Kabou, sont à l'origine de cette fermeture. MSF dispose d'un centre hospitalier de référence à Kabou qui prend en charge la population de la région environnante. Le gouvernement n'a pas encore commenté cette situation.
Un site de vente illégale de produits pétroliers a été découvert hier au quartier Gobongo dans le 8e arrondissement de Bangui.
Plus de 300 feux de carburant pour un montant de plus de 50 millions de francs CFA sont stockés dans une maison d'habitation. Un danger pour la population environnante, mais aussi une perte d'argent pour l'État centrafricain, selon le ministre de l'Énergie, Arthur Bertrand Piri, qui a effectué une descente sur le terrain. Igor Desquin, Sinopay.
Ce dépôt parallèle est situé au quartier Gobongo, à proximité de la Kéré, dans le 8e arrondissement de Bangui. À notre arrivée, plusieurs dizaines de feux remplis de carburant sont stockés dans la concession de cette maison sans aucune condition sécuritaire. Une concurrence déloyale et un risque pour la population, selon Arthur Bertrand Piri, ministre de l'Énergie.
Le secteur est libéralisé. Ceux qui veulent exercer cette activité-là n'ont qu'à se rapprocher du département, solliciter un agrément, on leur donne leur agrément et ils exercent en toute légalité en payant les droits et taxes dans la caisse de l'État. Mais malheureusement, vous constatez, on importe frauduleusement, on vient stocker dans une maison d'habitation avec les enfants à côté, il y a le feu à côté et je vous assure, même vous et moi, nous sommes ici, c'est à notre risque, hein, parce que s'il y a feu ici, ça prend tout le quartier. Donc c'est avec un cœur serré, serré parce que ça tue l'économie du pays.
La contrebande dans le secteur du hydrocarbure a déjà fait perdre à l'État centrafricain plusieurs millions de francs CFA selon la direction générale de la société de stockage des produits pétroliers. Le membre du gouvernement s'insurge contre cette pratique et ordonne le transfert des produits saisis à la SOCASP.
Nous nous rendons compte que vraiment c'est sérieux, c'est urgent, c'est plus que grave. Donc nous sommes conscients avec mes collaborateurs ici et selon les instructions du président de la République, du Premier ministre, nous allons travailler très rapidement sur cette question pour pouvoir contrôler et freiner la contrebande et également sécuriser nos populations, sécuriser nos compatriotes et effectivement faire en sorte que ceux qui veulent exercer cette activité l'exercent légalement, payent les droits et taxes dans la caisse de l'État.
La SOCASP avait tiré la sonnette d'alarme fin janvier sur cette propagation du commerce illégal des produits pétroliers en République centrafricaine. Une situation qui prend de l'ampleur à Bangui et pire encore en province après la suppression de l'Agence de stabilisation et de régulation des prix des produits pétroliers ASRP.
Igor Desquin, Sénapaï sur Radio Ndekiloka.
Parlons maintenant de ce tour de soulagement pour la population de certains quartiers de la ville de Karno dans la Mambéré.
L'eau de la Sodeka est revenue après au moins 2 mois de rupture. Notre correspondant Évariste Grassadjounoulas à Karno nous en parle.
Cette bouffée d'oxygène concerne les habitants du 2e arrondissement, notamment ceux des quartiers Pongom 1, 2, Dombia Dobélé, Aérodrome et autres. Cette reprise d'eau de la Sodeka intervient après la réparation du groupe électrogène le 28 janvier dernier. Certains consommateurs expriment leur satisfaction.
Je suis très content parce qu'aujourd'hui, nous avons de l'eau potable sur place dans notre quartier. Après la rupture, je remercie la Sodeka et le gouvernement.
J'ai reçu de l'eau dans les quartiers. Je remercie Sodeka.
Les habitants de ce quartier des environs, Pongoum 4, Pongoum 5, Pongoum 6 et Pongoum Palmeret ont effectivement eu de l'eau et de l'eau potable. Et grâce à cela, les gens lavent les linges et font les activités du ménage. Et c'est une grande satisfaction de ma part et de la population de Pongoum Palmeret.
Mais comment pérenniser la distribution d'eau potable? Le chef de centre de la Sodeka, Séraphin Arthur Sombol, répond.
Bon, les dispositions sont prises. C'est vrai que ce sont des vieilles machines, ça a duré. Il faut mettre une action sur la maintenance de ces machines-là. Je pense bien que nous allons dépasser ce cap.
Ivaris Grassadjounoulas, Karno, Radio Ndekeluka.
Venons-en, Inès, à ce mécontentement hier des personnes handicapées qui attendent l'intégration dans la fonction publique.
Elles déplorent la violation de leurs droits par le gouvernement. Ces personnes entendent manifester devant la primature dans les jours à venir pour réclamer leur intégration. Syriac Dato Loum Malikien, un coordonnateur du collectif des handicapés qui attendent l'intégration au micro de Armand Nguenti.
Nous sommes dans un état de droit et comme prévoit les textes statutaires, à l'occasion de chaque intégration dans la fonction publique centrafricaine, un quota de 10% est réservé aux personnes handicapées justifiant des qualifications requises. C'est pourquoi nous profitons de cette occasion pour demander notre intégration dans la fonction publique sans condition. Il faut que le gouvernement centrafricain veille à ce que les handicapés soient intégrés dans la fonction publique centrafricaine. Le droit de la personne personnes handicapées est bafouée. C'est pourquoi nous nous sommes réunis dans une assemblée générale pour revendiquer notre droit dans la fonction publique centrafricaine. Nous allons nous mobiliser en collectif pour manifester devant la primature pour revendiquer notre intégration dans la fonction publique.
En sport clair, au CAN 2022 au Cameroun, la petite finale se joue ce soir au stade de Yaoundé.
Oui Inès, c'est à 20h. Le match de la troisième place se joue entre le Cameroun, pays hôte de ce tournoi, et le Burkina Faso. Cependant, la grande finale de cette 33e édition est prévue demain entre le Sénégal et l'Égypte à 20h au stade d'Olembe.
Ici au Centrafrique, le championnat retour de la Ligue Football de Bangui se poursuit au stade de Barthélémy Boganda.
Tout à fait Inès, en ce moment, deuxième division UFC 5 affronte Sporting Club de Bangui Dimoura. En deuxième, en division supérieure, duel entre SCAF et les Anges de Fatima. Hier, en deuxième division, Club Athlétique de Bangui a battu FD 3-2. En première division, AS Tempête Mokaf et tout puissant USCA de Bangui étaient à égalité, 1-1. Football en province, à Bombari, dans la Waka, c'est la poursuite du championnat allé des moins de 17 ans. À l'instant même, USTA joue contre le foot Namis et à 15h, Tempête Mokaf joue contre Ascom. Demain à 7h, Olympique Réal de Bombari va affronter Sika Sport. Ce matin, Fatima a largement battu DFC8K 3-0. Les Anges de Saint-Joseph et LFC ont fait match nul, 2-2.
Puis la Fédération Centrafricaine de Vélo Tout-Terrain VTT a organisé ce matin la première édition de Rallye Bangui.
Effectivement, 65 cyclistes ont pris part à cette première compétition. Cette course a débuté à Landia dans le 7e arrondissement et a pris fin au stade 20 000 places. L'objectif est de valoriser cette discipline qui est méconnue du grand public. Maxime Joël Lalaï.
Cette première compétition du rallye VTT a pris sa ligne droite à Landia dans le 7e arrondissement de Bangui. Les cyclistes ont passé par le Comte de Roux, croisement 4e, kilomètre 5 et rond-point 6 autres avant de chuter à l'entrée du stade 20 000 places. Ce sont 5 cyclistes, dont 2 femmes, ont pris part à cette première édition. Marvin Lopez Toyama, premier de la course.
C'est un réel plaisir pour moi de prendre part à la première édition de cette compétition de rallye VTT. C'est aussi un circuit que j'aime beaucoup, mais je n'ai pas eu l'occasion de le pratiquer dans mon pays. Et aujourd'hui, on m'a donné l'opportunité et vraiment, j'ai pu démontrer tous mes talents qui ont fait que je suis premier. J'ai remporté le tournoi, donc vraiment, j'étais très ravi.
Jean-Gustave Bollet, président de la Fédération Centrafricaine de Vélo Tout-Terrain VTT et initiateur de ce rallye, présente l'intérêt de cette première compétition.
Le VTT n'est pas connu à Bangui, alors il fallait un rallye d'initiation et de démonstration pour que les Centrafricains sachent de quoi il s'agit, afin qu'ils puissent s'adhérer. C'est ce qu'on a fait et parallèlement, c'était pour la cohésion sociale. Ça veut dire qu'il y aura un rallongement. Mais pour le moment, on s'intéresse beaucoup plus à Bangui parce qu'après ce qu'on a démontré, il va falloir amener des experts de l'extérieur pour venir enseigner nos athlètes.
Les trois premiers ont tous reçu des trophées dont les valeurs varient de 100 à 50 000 francs CFA, des montres sportives qui ont une valeur de 750 000 francs CFA, des médailles de rallye, des tenues de sport pour les cyclistes et des casques. Les deux filles ainsi qu'un enfant de moins de 20 ans qui ont pris part à cette course ont reçu des médailles de rallye.
Merci à vous Maxime Joël Lalaï. Et en judo clair, un tournoi de Grand Slam de Paris s'ouvre aujourd'hui et prendra fin demain.
En catégorie de moins de 63 kilos, l'athlète centrafricaine Nadia Gimendego va affronter aujourd'hui la japonaise Nabekura. L'objectif de cette compétition pour la Fédération centrafricaine de judo est la qualification aux prochains Jeux olympiques de Paris 2024.
Et du handball pour terminer avec la poursuite de la première journée du championnat de la Ligue de Bangui en senior masculin.
Tout à fait Inès, cet après-midi à 15h30 à Académie joue face à Olympique hier pour le match d'ouverture à l'INJS. Ascobra battu à SOPT par forfait.
Et c'est la fin de ce journal sur les 100.9 FM. Radio Ndiki Lokan reste branché pour la version en langue nationale.